Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Et si nous commencions par Victor Hugo, avec un extrait des Misérables situé au moment de la Restauration. On est entre Waterloo et les émeutes de 1832. En tout cas, on est sous la Restauration de Louis XVIII, Charles X. Les Champs-Élysées, écrit Hugo, pleins de soleil et de foule, n'étaient que lumière et poussière, deux choses dont se compose la gloire. Les chevaux de Marly, ces marbres hennissants, se cabraient dans un nuage d'or. Les carrosses allaient et venaient, un escadron de magnifiques gardes du corps clairons en tête descendait l'avenue de Neuilly, le drapeau blanc, vaguement rose au soleil couchant, flottait sur le dôme des Tuileries. Victor Hugo évoque donc ces deux impressionnants groupes sculptés réalisés en marbre de Carrare, en marbre blanc, par Guillaume Coustou et Guillaume Coustou. Oui, le père s'appelait Guillaume, mais le fils également. Les sculptures, les groupes datent du milieu du XVIIIe siècle, entre 1743 et 1745, peut-être au sommet de ce qu'ont été les grands arts décoratifs français. Alors vous savez qu'ils représentent des chevaux fougueux, cabrés, qu'essaient de retenir des athlètes nus, musclés, qui sont des espèces de palefreniers qui luttent avec la force des chevaux et la crinière flottante et bourriffée, les naseaux frémissants, les yeux dilatés des chevaux ont fait leur célébrité. Ces chevaux de Marly dégagent, disons-le, une espèce de force incroyable et qui, pendant près de deux siècles, a fasciné tous ceux qui passaient place de la Concorde avant que les chevaux en question ne soient déplacés au musée du Louvre où vous pouvez désormais aller les admirer dans la merveilleuse cour de Marly. Mais il y a bien sûr des copies qui ont été placées à la place. Au départ, si on appelle ces chevaux chevaux de Marly, c'est qu'ils n'ont pas été faits du tout pour la place Louis XV, pour la place de la Concorde. Non, non. À l'origine, ils étaient bien sûr destinés à la résidence secondaire de Louis XIV, où le roi Louis XIV a d'ailleurs passé une grande partie de sa vie dans les 20 dernières années de son règne. C'est le célèbre, le merveilleux domaine de Marly, bien entendu. Alors, peut-être faut-il que je vous parle d'abord du créateur, de ceux qui ont sculpté les chevaux. Guillaume Coustou était né à Lyon sous Louis XIV en 1677. Son père était un sculpteur sur bois et sa mère, figurez-vous, était la sœur d'Antoine Coisevaux. Coisevaux, Coisevox, comme disent certains, était un sculpteur très célèbre de l'époque, peut-être le plus célèbre des sculpteurs qui ont orné le parc de Versailles. Auteur de portraits, de statues équestres, il avait aussi travaillé à Chantilly, bien entendu. À Versailles, il a fait partie de l'équipe qui a décoré l'escalier des ambassadeurs, la galerie des glaces, la grande galerie, la cour de marbre, etc., etc. Coisevaux est également professeur à l'Académie royale de peinture et sculpture, qui a été fondée en 1648, et il fait partie de ceux qui, on va dire qu'il fait partie de l'équipe de Charles Lebrun, tout simplement. Donc, ça, c'est le beau-père. Charles Lebrun, en tout cas, pardon, oui, la mère de Coustou, était la sœur de Coisevaux. Donc, en fait, c'était l'oncle. Guillaume a un grand frère qui s'appelle Nicolas, qui lui aussi est sculpteur, ancien élève de Coisevaux à l'Académie royale, lauréat du prix de Rome. Il a ensuite effectué sa formation à l'Académie de France et il a donc fréquenté la Villa Médicis, ce qui a été pour lui l'occasion de s'imprégner de tout le grand goût romain, bien entendu. Et Guillaume va marcher dans les pas de ce frère. Il quitte Lyon pour rejoindre Paris et l'atelier d'Antoine Coisevaux avant de remporter lui aussi le prix de Rome et d'obtenir cette bourse qui lui permettra à son tour d'être pensionnaire à l'Académie l'Académie de France. On suit la voie royale, si je puis dire. Tous ces sculpteurs sont exactement dans le moule de ce qu'on attend des grands artistes de ce règne de Louis XIV. Sauf que, contrairement à Nicolas, Guillaume n'aime pas l'espèce de discipline qui règne à la Villa Médicis. Et il va s'arrêter avant la fin. Il ne termine pas sa formation, ce qui ne l'empêche pas de rester à Rome, de s'imprégner lui aussi de toutes les grandeurs qu'on peut voir dans la capitale des papes. Il mène une vie de bohème, mais comme souvent lorsqu'on mène une vie de bohème, il va finir par avoir des problèmes d'argent, au point même qu'il ne sait plus trop quoi faire et qu'il envisage de partir pour Constantinople. C'est grâce à un ami sculpteur qui lui propose de travailler sur le bas-relief d'une église qu'il parvient néanmoins à rester à Rome. Et à l'âge de 26 ans, le voilà de retour à Paris, Guillaume Coustou, à Paris où il retrouve son frère, Nicolas, devenu professeur à l'Académie royale de peinture et sculpture. Et l'oncle Coisevaux est à la tête de cette Académie royale. Vous voyez qu'en fait, il est vraiment né dans le sérail, d'une certaine façon, ce Guillaume Coustou. Il a été, depuis sa tendre enfance, imprégné de ce qu'on doit pouvoir appeler le grand goût.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Alors lui aussi il se forme donc aux côtés de Nicolas dans le sillage de l'oncle Coisevaux et il va être reçu comme académicien. Il présente une statuette en marbre qui représente Hercule sur le bûcher. Il reçoit ses premières commandes importantes à ce moment-là, notamment pour la chapelle de Versailles à laquelle on est en train de travailler, la dernière, la cinquième des grandes chapelles du château. En 1715, c'est-à-dire au moment de la mort de Louis XIV, il devient son tour professeur à l'Académie royale de peinture et sculpture. Il est en train de... Alors, par ailleurs, il s'est marié, il aura 7 enfants. Bref, il commence à avoir une position. On peut dire qu'il se fait un nom. Son frère Nicolas croule sous les commandes. Il travaille pour le château de Versailles, pour le jardin des Tuileries, pour l'hôtel des Invalides. Il est aussi l'auteur d'une descente de croix qui va être l'un des chefs-d'œuvre du chœur complètement renouvelé à l'époque de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Et Guillaume est là, qui n'est pas loin de son frère Nicolas, qui travaille avec lui sur la plupart des projets. À Lyon, les deux frères vont réaliser les allégories du Rhône et de la Saône sur le piédestal de la statue Louis XV, place Bellecour. Il réalise aussi toute une série de sculptures pour le domaine de Marly. Là, le domaine de Marly, c'est un peu l'endroit où Louis XIV réserve les chefs-d'œuvre, en quelque sorte. Robert de Cotte et Jules Ardouin-Mansart ont travaillé, bien sûr, à Marly, en ont fait l'espèce de lieu très privilégié que ça peut représenter, lieu d'intimité royale, de fête, de plaisir, où l'on invite quelques invités sélectionnés à aller à Marly, n'est-ce pas? C'était considéré comme le sommet. Louis XIV, on dit, je sais pas si ce mot est vrai, mais on dit que Louis XIV aurait dit, j'ai fait Versailles pour la cour, Trianon pour la famille et Marly pour mes amis. En tout cas, c'est le lieu de retraite où, encore une fois, le roi passe une grande partie de ses semaines dans la dernière partie de sa vie. À la fin, le roi, lassé du beau et de la foule, se persuada qu'il voulait quelquefois du petit et de la solitude, dit Saint-Simon. Marly, c'est le très grand luxe, mais dans la discrétion et le raffinement, si vous voulez. Alors au centre, vous avez le grand pavillon royal, et puis, de part et d'autre d'une pièce d'eau, qui s'appelle le miroir d'eau, vous avez 12 pavillons qui accueillent les invités. Marly, c'est aussi l'endroit où se trouve un peu en contrebas la fameuse machine, la machine de Marly, gigantesque dispositif de pompage qu'on considérait à l'époque comme la 8e merveille du monde et qui permettait de pomper l'eau pour aller alimenter non seulement les bassins et les fontaines de Marly, mais ceux de Versailles, bien sûr. Versailles est tout près de Marly, c'est à une dizaine de kilomètres. On peut dire que le domaine de Marly est à mi-chemin entre le château de Saint-Germain et le château de Versailles. Alors avant les frères Coustou, Antoine Coisevaux, l'oncle, avait déjà travaillé à Marly et il avait justement réalisé pour Ornée la grande pièce d'eau qui est tout à fait au bout du parc, un peu en contrebas, qu'on appelle l'abreuvoir, parce que c'était un abreuvoir à chevaux. Quand on dit un abreuvoir, c'était ces espèces de plans inclinés remplis d'eau dans lesquels on venait laver les chevaux. Eh bien, il avait sculpté de part et d'autre de la grande terrasse qui domine l'abreuvoir un Mercure et une renommée à cheval sur Pégase, deux groupes sculptés absolument magnifiques. Et donc à Marly, on peut dire que les frères Coustou vont travailler avec leur oncle à la réalisation d'un certain nombre de chefs-d'œuvre, notamment quatre figures de la Grande Cascade. Ils font également un duo de statues qu'on met sur l'îlot au centre du bassin des Carpes, Apollon et Daphné. Et c'est d'ailleurs Guillaume Coustou qui réalise Daphné. Nicolas s'est occupé d'Apollon. Vous voyez donc que Guillaume Coustou est au cœur du dispositif royal de grande décoration. Il est en quelque sorte l'homme du grand décor. De Rameau, l'ensemble Collegium 1704 était sous la direction de Václav Lux.
Vous écoutez Radio Classique.
Alors on a changé de règne, Louis XIV est mort en 1715 et disons-le, son successeur, celui qui assume la régence en attendant la majorité de Louis XV, le régent Philippe d'Orléans, n'est pas passionné par Marly. Il y a d'ailleurs beaucoup de mauvais souvenirs et il a même l'intention d'abandonner Marly. Mais c'est Saint-Simon, le duc de Saint-Simon, proche du régent, qui a été très souvent invité là-bas, qui était fasciné par Marly et qui va le faire revenir sur sa décision. Il n'empêche que le régent, en 1719, a demandé qu'on enlève les deux grands groupes de Coisevaux, qui représentaient donc Mercure et la renommée, ces deux grands groupes qui étaient de part et d'autre de la terrasse de l'Abreuvoir, il les a fait déplacer jusqu'à l'entrée du parc des Tuileries. Alors, Guillaume Coustou va perdre son frère en 1733, et à ce moment-là, c'est lui qui est nommé directeur de l'Académie royale. Donc, il est à la tête des peintres et des sculpteurs de France. Pas étonnant dès lors que le directeur des bâtiments du roi, qui à l'époque est Philibert Horry, lui commande un nouvel ensemble de décors. Alors, il va faire, vous savez, c'était comme ça à l'époque. On ne commençait pas par sculpter la sculpture, par sculpter le groupe à taille réelle. On faisait d'abord un petit modèle en cire qu'on présentait au prince et selon l'intérêt qui était porté au groupe, eh bien, on le réalisait ou on le laissait de côté. Donc, Guillaume Coustou se voit commander deux groupes de sculptures, hein, deux grands ensembles pour orner, pour installer à la place de l'ancien groupe de Coisevaux sur la terrasse de l'abreuvoir de Marly. Alors, il est libre de choisir le thème qui l'intéresse, hein. On n'est plus tellement dans la sculpture mythologique et allégorique à l'époque. Les temps ont changé depuis Louis XIV et Coisevaux. Coustou va proposer autre chose, des chevaux, échappés qui sont arrêtés par des palefreniers. Toujours cette idée, alors quand je dis toujours, parce qu'on retrouve ça très souvent dans bien des époques, presque à chaque fois que la sculpture atteint des sommets, vous avez, sculpture et peinture d'ailleurs, vous avez des artistes qui aiment montrer la confrontation de la force humaine avec la force équestre, en quelque sorte. Et donc cette idée, c'est l'idée des Dioscures également, comme on peut en trouver sur les fontaines du Quirinal à Rome. Charles Lebrun aussi avait fait des chevaux arrêtés par des palefreniers. Enfin bon, on est dans cette thématique qui n'a rien de tout à fait nouvelle, du reste. Cousteau va donc faire ses petits modèles, qui sont très appréciés. On lui commande donc les maquettes grandeur réelle. Alors cette fois, il va les faire en plâtre dans son atelier du Louvre. Donc il fait venir des modèles, hein, c'est-à-dire des chevaux et des hommes qui vont poser pour Cousteau. Il va faire ses moulages en plâtre pour le salon de 1740. On va exposer tout ça. Les gens s'extasient. Eh bien, il va falloir passer maintenant à la réalisation. Alors, il faut vous dire qu'à la même période, il y a un jeune sculpteur qui étudie à l'Académie de France à Rome et qui est envoyé à Carrare pour commander les blocs de marbre dans lesquels on va faire les deux groupes. Depuis l'Antiquité, on extrait le marbre à Carrare. Carrare, c'est une petite centaine de kilomètres de Florence. Déjà, à l'époque de Jules César, on utilisait le marbre de Carrare pour les grands décors de la capitale, à Rome. Ensuite, à la Renaissance, vous savez bien que Michel-Ange va donner, en quelque sorte, une célébrité universelle à ce marbre de Carrare, dans lequel il va sculpter notamment son célèbre David. Bref, et puis d'une façon plus générale, dans le parc de Versailles, vous avez énormément de groupes qui sont en marbre de Carrare. Cousteau doit prendre son mal en patience parce que les deux énormes blocs de marbre ne vont pas arriver à Paris aussi facilement que ça. D'abord, il faut les choisir, il faut les extraire et puis les transporter 3 années pour que les blocs arrivent depuis Carrare jusqu'à Paris, en passant par Marseille. De Marseille, on les a remontés sur un bateau qui les a amenés à l'embouchure de la Seine. Il a fallu les transférer sur une péniche, etc. Bref, ça y est, Cousteau à sa matière première, il va pouvoir se mettre au travail. Voilà ce que nous dit l'historien de l'art François Souchal. Cousteau commence par dresser les plinthes et abattre le plus gros, avec l'aide de 7 ou 8 ouvriers pour chaque morceau. Des charpentiers, des maçons, les juges dans son atelier sur 2 châssis tournant sur pivot. Cousteau fait valoir dans son mémoire les efforts déployés, un nombre considérable d'études d'après le naturel pour faire ressentir le mouvement et l'action des muscles exercés par la force dont il fait usage. Ils ont 7 pieds de proportion, ça fait 2,27 m, et sont donc plus grands que nature. Les chevaux demandent une attention encore plus grande, d'une certaine manière. C'est Cousteau lui-même qui dit « Les crins, tous en l'air, ont coûté des attentions considérables pour les percements. » Et il ajoute que la peau d'animal qui recouvre, je cite, « a coûté un temps considérable pour la détacher du corps du cheval partout où il convenait. » Et qu'il en a été de même pour la queue, parce qu'il faut que les queues de ces chevaux aient l'air flottante, légère. C'est du marbre, hein, donc il faut pas qu'on ait l'impression d'un gros bloc de marbre, évidemment. Il faut que tout ça devienne quasiment aérien, que tout ça soit animé par une force dont on ait l'impression qu'elle est intérieure. Au total, Guillaume Cousteau va mettre 2 ans à réaliser cette œuvre de 3,50 m de haut, 3 m de long, qui met en scène donc ces 2 chevaux sauvages qui sont en train d'essayer d'échapper à leurs esclaves indiens, dont l'un est reconnaissable à son carquois et à ses flèches. Hein, c'est la représentation habituelle des indigènes de l'Amérique. C'est assez amusant d'ailleurs d'avoir placé ces histoires équestres en Amérique. Cousteau est aidé, Guillaume Cousteau, si je puis dire, est aidé par Guillaume Cousteau, puisque son fils, vous le savez, s'appelle également Guillaume. Il a lui aussi, le fils, été Grand Prix de Rome, pensionnaire de la Villa Médicis. Non, mais tout ce monde-là a suivi la voie royale. On a quand même demandé pour réaliser tout ça et pour payer toute l'équipe qui travaille dans cet atelier entièrement mis au service des deux groupes sculptés, quelques 128 000 livres, ce qui est une somme absolument considérable. Les chevaux vont être transportés sur la Seine en direction de Marly à l'été 1745. Ils n'ont pas été tout à fait terminés, on les finira sur place. Des gardes suisses ont été réquisitionnés pour garder les deux groupes de marbre jour et nuit. Et c'est le moment où Guillaume Coustou se sent mal. Est-ce qu'il s'est trop dépensé dans la réalisation de ce qui devait être son chef-d'œuvre? Toujours est-il qu'il est, il est malade maintenant, il est alité. C'est son fils qui va essentiellement achever les sculptures. Quand même, le père pourra admirer l'œuvre finie. Avec donc vous avez cette grande terrasse ferronnée au-dessus de l'abreuvoir de Marly et puis de part et d'autre les groupes absolument magnifiques qui sont à proportion, qui sont très beaux. Guillaume Coustou peut mourir en paix quelques mois plus tard à l'âge de 69 ans. Note du Céphale et Procris d'André Modeste Grétry. L'orchestre de Bretagne était sous la direction de Stéphane Sanderling.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Le domaine de Marly subit bien des boires à la Révolution, bien entendu. Il y a quand même un charpentier qui arrive à mettre les chevaux de côté avant que la Commission des Arts ne les transfère dans un dépôt national. En pleine terreur, la Commission des Monuments décide de ramener les deux chevaux de Marly à Paris. On les place aux Tuileries, qui est devenu palais national. C'est là que siège la Convention. Voici ce que dit David, le grand peintre. Les monuments des arts qui échapperont à la vicissitude des temps et à l'insulte des passions sont ceux qui n'ont pas payé de tribut à l'orgueil. Enfants de l'imagination, les groupes de Coustou n'avilirent pas leur auteur par l'hommage d'une flatterie insensée. Bref, ils ont la faveur des révolutionnaires et on les place à l'entrée des Champs-Élysées, sur cette place Louis XV qui entre-temps est devenue la place de la Révolution.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et à cette époque, la place de la Révolution, évidemment, c'est celle où on guillotine. Vous savez, c'est là que mourront Louis XVI, Marie-Antoinette, etc. Et Madame du Barry et Danton, et tant d'autres. Alors, au moment du directoire, la place est renommée, vous savez, place de la Concorde. C'est là que le public peut venir admirer maintenant les chevaux de Marly. Et ces chevaux de Marly, au moment où les Champs-Élysées vont devenir tout à fait à la mode, c'est-à-dire de plus en plus, pendant tout le début du XIXe siècle, évidemment, ils deviennent eux aussi très à la mode et les Parisiens les observent et les admirent bien plus que ne pouvaient le faire autrefois les badauds. Il fallait aller à Marly pour voir ces chevaux. Maintenant, vous les avez là, en plein Paris. Ils vont y rester jusqu'en 1984. Et puis, au milieu des années 80, on se rend compte que la pollution de l'air, les dégradations diverses ont fait que les statues sont très abîmées et on décide de les déposer, d'aller les installer au Louvre, dans cette cour qui porte le nom de Marly, dans l'aile Richelieu, somptueuse cour Marly, où vous avez non seulement les deux groupes de Coustou père et fils, mais également les deux groupes de Coisevaux. Tout Marly est réuni maintenant au Louvre.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Christophe Dard d'avoir documenté cette émission et bonjour à Christian Morin.
Bonjour mon cher Franck, et toute l'histoire, puisque tout Marly est réuni au Louvre, toute l'histoire est réunie au travers de Franck Ferrand sur Radio Classique à 8h05 chaque jour avec David Avicaire. le matin à 9h qui me donne le plaisir de vous croiser. Et puis tantôt, comme l'on disait autrefois, cet après-midi, vous nous parlez de Phineas Gage. Qui est-ce?
Ah, ben ça, vous verrez, c'est une histoire vraiment extraordinaire.
Bon, eh bien, je serai à l'écoute à 14h cet après-midi. Et nous retrouverons, bien sûr, Franck, dès demain matin. Je vous souhaite une excellente journée. Petite anecdote, notre ami Frédéric Becbédé, qui maintenant vous donne rendez-vous le samedi de 19h à 20h, recevra Amélie Nothomb, qui peut-être s'est penchée sur les problèmes du gasoil et de l'augmentation de l'essence, puisqu'elle sort un livre, un nouveau roman qui s'appelle « Psychopompe ».
Oui, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, mais enfin, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, on ne sait jamais. Moi, en tous les cas, ça me donne des idées de dessin. Bien, bonne journée.
Se sentir enfin chez soi, ça paraît évident. Mais pour Léa et sa famille, c'est la fin de plusieurs années de galères passées de foyer en foyer. En inscrivant le Secours catholique comme bénéficiaire de votre assurance vie, vous pouvez permettre à d'autres familles de vivre enfin dans un logement stable et rassurant, à d'autres enfants de suivre une scolarité normale et d'avoir un jour la chance de construire leur avenir. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité. Découvrez comment transmettre votre assurance vie au Secours catholique sur assurancevie.secours-catholique.org.